Septembre 2024. L'École supérieure d'art et design de Valenciennes, école bicentenaire, vient d'effectuer sa dernière rentrée. La mission semble claire. Il s'agit dorénavant de conduire le projet à sa fin. Cessation par achèvement. Mais comment achever une école d'art? Une école faite de vie, de projets, de possibles, de travail, de liberté, de contraintes, d'alternatives, de rêves, de pensées, de sueurs, de transgressions, de lutte, trop de lutte, pas assez de lutte, de fête, d'audace, d'autonomie, d'amitié. Nous connaissons désormais le mode opératoire, d'abord administratif, une année dite blanche, une fermeture annoncée 2 ans avant sa date effective, la garantie d'un passage de diplôme pour l'ensemble des étudiants inscrits dans l'établissement. Puis la gestion matérielle, un bâtiment récupéré par l'agglomération, un fonds de bibliothèque redistribué, des équipements et ameublements vendus ou délaissés. Si cette perspective réductrice nous alarme, surgit aujourd'hui cette question réelle et urgente. Comment bien fermer une école d'art? Comment mettre fin à un monde? Car finalement, n'est-ce pas à nous, l'équipe pédagogique, administrative, technique et étudiants restants, que cette lourde tâche revient? Si l'annoncer est une chose, baisser le rideau en est une autre. Nous avons reçu des condoléances, de l'empathie, de la commisération. Quid des modes d'emploi? Bonsoir à celles et ceux qui nous écoutent, à celles et ceux qui sont présentes avec nous. Nous sommes en direct depuis l'ESSAT de Valenciennes. Bienvenue dans ce tout premier épisode du cycle de rencontres « Comment bien fermer une école d'art ?» un cycle en partenariat avec Du Radio. Nous avons le plaisir d'accueillir ce soir l'auteur Sophie Coiffier, que nous présenterons d'ici quelques instants, ainsi que 3 membres de l'équipe de l'ESSAT de Valenciennes, Sébastien Bignec, Florian Bulufézard et moi-même, Elisabeth Hill. Nous organisons ce cycle de rencontres afin de commémorer le dernier semestre de l'existence de notre école, l'ESSAT de Valenciennes. Tel que la suite de notre texte de présentation l'indique, ces temps se voudront un espace de réflexion qui accompagnera nos actions sur cette fin qui s'approche, une absence qui se creuse, des luttes passées et un deuil à venir. Il s'agit de créer des moments de partage et de soutien au sein d'une communauté élargie, de faire l'expérience d'une fermeture, de ne pas partir en silence surtout.
Il nous a semblé important de commencer d'abord par contextualiser cette fermeture. Les tenants et aboutissants de cette décision politique feront l'objet d'une étude dans les séances à venir. Et pour le moment, nous voulions rappeler quelques points. Donc, l'école dans laquelle on se situe actuellement a déménagé en 2005 en quittant son bâtiment historique dans le centre de Valenciennes pour l'ancien bâtiment des services centraux d'Usinor. Selon Jean-Louis Borloo, à l'époque président de Valenciennes Métropole, et Patrick Roussiès, délégué à la culture, ces nouvelles installations sont un investissement pour l'avenir autant qu'un hommage au passé. C'est, je cite, à la fois un signe d'espoir, un hommage à une tradition glorieuse, une foi forcenée à l'avenir et un symbole. Depuis 2011, l'école est un établissement public de coopération culturelle, EPCC, qui est régi par un conseil d'administration qui réunit les représentants de la ville de Valenciennes Métropole, du ministère de la Culture, soit le Draco de France, et de la Chambre de commerce et d'industrie Grand Théo.
À partir de 2012, le nouveau maire, qui est toujours d'actualité, signe une diminution drastique des financements publics de l'école. Une première vague de lutte s'ensuit.
En 10 ans, l'école subit des coupes budgétaires successives sur la part prise en charge par la mairie et l'agglomération. L'incertitude quant à l'avenir de l'école n'est jamais loin.
En 2022, le contrat de la directrice de l'époque, Nawal Bakouri, n'est pas reconduit. S'ensuit une période d'incertitude et des actions de mise en garde réalisées par l'équipe et les étudiants. Ensuite, au CA du 12 janvier 2023, l'année blanche, c'est-à-dire une interdiction de recruter une première année, est officiellement annoncée.
Prétendément pour prendre du recul sur la situation.
Après plusieurs manifestations dans la région, puis devant le ministère de la Culture à Paris, l'école est occupée par un groupe d'étudiants à partir de mars 2023, pour un mois environ. Et dans les mois qui ont suivi, une deuxième année blanche est annoncée. À ce moment, la fermeture semble inévitable.
Fin de l'année scolaire 2023-2024, la mairie annonce la dissolution administrative de l'EPCC.
Nous voulions aussi préciser qu'un EPCC ne peut fonctionner avec un seul membre fondateur. Il faut qu'il en reste au moins deux, et il n'y a pour le moment aucune règle qui empêche un membre de partir, d'abandonner ses responsabilités sans contrepartie ou sans conséquence. Une fois que l'annonce a été officialisée, que les démarches administratives ont été décrétées, est survenue cette question au cours des réunions d'équipe. Comment bien faire? Comment faire tout court? Ça nous a semblé aussi vertigineux qu'injuste de surmonter cette épreuve entre nous.
Alors, on a programmé à peu près entre 6 et 8 séances pour l'instant, et s'il subsiste encore des éléments indéfinis, on peut vous faire un petit état des lieux du programme qu'on a commencé à dessiner. On communiquera prochainement sur un calendrier détaillé et vous pourrez le trouver sur le site de DU, de l'école et puis via les réseaux de communication habituels. Dans ces prochains rendez-vous, il sera notamment question du regard étudiant, des luttes passées, des actions menées, aussi pour poser une vision nationale et syndicale des menaces qui pèsent sur le réseau des écoles d'art territoriales aujourd'hui. On pourra lister pas mal de signaux d'alerte. Il sera aussi question de l'histoire du design social à Valenciennes et du rôle qu'il peut jouer face aux grands défis de notre époque, enfin, très humblement. Et puis, faire un petit point sur les pédagogies expérimentales en opérant des croisements à partir d'exemples historiques actuels et en essayant d'envisager les futurs. Et pour cette première séance, pour lancer le cycle de rencontres, on est super heureux d'accueillir Sophie Coiffier. Sophie nous a accompagnés à plusieurs moments à Valenciennes, notamment en animant des ateliers d'écriture pour les étudiants et les étudiantes de nos masters. Elle nous connaît bien, donc c'est plutôt rassurant de se lancer avec elle, même si le moment nous semble un peu angoissant pour cette première. Donc c'est un peu une sorte de grand saut dans le vide, c'est pour ça qu'on a donné ce titre d'ailleurs à ce premier rendez-vous. Et à l'image de ce qui nous attend après, on a cette sensation un peu de vertige. On essaie de se dire que malgré tout... Malgré tout ce qui s'ouvre devant nous, on arrivera à atterrir sur nos pattes ou sur nos skis. Alors pour te présenter, Sophie Coiffier, tu es auteure et docteur en arts plastiques. Tu as enseigné les arts plastiques dans le secondaire, puis à l'université, Paris 1, Rennes 2, Université de Valenciennes, mais également l'écriture créative et méthodologique du mémoire, en école d'art et de design. Ainsi les ateliers, Centre Michel Serres, Université Gustave Eiffel et ici à l'ESSA de Valenciennes. Ton œuvre littéraire relève de la poésie contemporaine. Dans les récits que tu produis, tu convoques et tu mélanges parfois plusieurs formes littéraires, plusieurs registres. Cette hétérogénéité formelle te permet de questionner nos représentations sociales et environnementales.
Alors, merci pour cette présentation. Bonjour à toutes et à tous. Alors, je suis très très émue d'être ici ce soir pour plusieurs raisons. D'abord, par rapport à la situation, bien évidemment, et aussi, je suis très émue de revenir à l'école, qui est pour moi vraiment un lieu que j'ai, enfin, vraiment beaucoup aimé, aussi bien dans sa dimension créative que dans sa dimension humaine. Et en fait, j'ai commencé donc à venir pour la première fois à l'école pour justement encadrer et m'occuper des mémoires à l'automne 2021. Et j'ai encore accompagné des élèves en art et design et notamment l'encadrement des mémoires jusqu'à l'année dernière. Alors, mes interventions étaient effectivement assez, liées aux mémoires, mais assez variées, puisque soit il s'agissait de rentrer dans l'écriture même du mémoire, soit en amont de faire effectivement des petits ateliers d'écriture pour rêver le sujet du mémoire. Et ces ateliers d'écriture, ces petits récits, ils étaient accompagnés souvent... de descriptions, d'exemples, de projets de design ou d'œuvres d'art qui devaient nourrir la recherche. Et en fait, ce soir, pour inaugurer cette série de rencontres autour de la création en période de crise, j'avais voulu m'arrêter justement sur cette pratique de la description et de l'observation qui me semble fondamentale et qui est fondamental non seulement dans le cadre d'études de design et d'art, mais qui, je pense, plus largement, peut nous aider aujourd'hui à regarder au fond pour aller très très vite le monde tel qu'il est, et surtout le monde tel qu'il est par-dessus les récits qui sont faits de ce monde et qui s'empilent les uns sur les autres. Alors, quand on a commencé à parler de cette rencontre et que j'ai commencé à évoquer cette histoire de description, Elisabeth, ici présente, m'a très opportunément parlé des deux derniers livres de Nicolas Nova, qui, hélas, nous a quittés très brutalement récemment, qui est un chercheur, un socio-anthropologue, et qui était enseignant à l'école d'art et design de Genève. Les deux ouvrages en question sont Exercice d'observation et Fragments d'une montagne. Alors, dans Exercice d'observation, ou l'art de remarquer, tel qu'on peut l'appeler également, il répertorie à travers sa propre expérience et auprès d'autres auteurs de différentes disciplines, des manières d'observer autour de soi les choses. Il s'agit d'avoir une attention au monde, mais aussi de savoir prendre du recul afin de comprendre ce qu'on regarde. D'avoir un point de vue, une analyse, ce qui n'est pas du tout la même chose qu'avoir une opinion. Et je crois que cette manière d'aborder le monde, si elle est juste pour un anthropologue, elle est également juste pour un designer ou un artiste. Simplement, les traductions de ces observations ne sont pas les mêmes. Évidemment, moi, en tant qu'auteur, dans l'écriture, il y a aussi cette part d'observation, non seulement par rapport au sujet que l'on choisit de traiter, mais aussi dans la manière sensible de le faire avec les mots que l'on sélectionne. Alors, cette capacité d'observation nous permet, par exemple, de repérer des pratiques quotidiennes, des manipulations d'objets, mais elle nous permet aussi de saisir des transformations sociétales. Mais pour cela, il faut être vigilant et passer par-delà des représentations qui sont parfois un frein à notre compréhension du monde. Et c'est ce que j'essaye de faire, par exemple, dans mes ouvrages, et notamment dans le dernier, dont je vais vous lire des extraits ce soir. Alors, l'attention à l'observation nous mène, en fait, à une pratique de la notation. Et en fait, dans son ouvrage « Exercice d'observation », Nicolas Nova fait un véritable manuel, en fait, pratique, qui nous amène pas à pas, non seulement à savoir regarder, mais à savoir écouter, qui utilise aussi des outils, ça peut être le carnet de notes, mais ça peut être aussi l'iPhone. Je pense que c'est un ouvrage assez utile, pour une découverte petit à petit de ses propres capacités d'observation. Alors, cette pratique de notation, là où elle est intéressante, c'est qu'elle doit mener en fait à un récit ouvert, c'est-à-dire sortir des récits clos. Et un récit ouvert, c'est quoi ? C'est un récit qui se déplace, qui va voir plusieurs lieux, pays, régions. C'est une pratique qui écoute aussi différentes personnes, différents acteurs, différents. Je sais pas, ça peut être suivant ce qu'on observe, qui n'ont pas eux les mêmes récits, par exemple. Et c'est aussi un récit qui apprend lui-même au fur et à mesure. Et en fait, je pense que en lisant les deux ouvrages de Nicolas Nova, Exercice d'observation et Fragments d'une montagne, je pense que Fragments d'une montagne est une application assez généreuse de son premier ouvrage, Exercice d'observation. Alors, dans Fragments d'une montagne, Nicolas Nova écrit son propre parcours d'observateur et en fait, il regarde le monde tel qu'il est, avec la montagne telle qu'il la voit, c'est-à-dire en dehors justement des représentations archétypales qu'on peut en avoir. Et il va aussi aller à la rencontre des visiteurs qui traversent les Alpes. Alors, par exemple, il va suivre un groupe dans les Alpes bernoises, un groupe d'Américains qu'il découvre encombré d'une panoplie high-tech faite de zooms surdimensionnés, de drones équipés de caméras et autres appareils non identifiés. Et en fait, dans une espèce d'errance, d'ouverture, comme ça, à l'expérience, il décide de les suivre. Et il apprend que cette équipe appartient à un studio de création de jeux vidéo. Et leur boulot consiste à récolter des références visuelles afin de recréer les Alpes bernoises dans un jeu de course automobile. Le travail devant s'étaler sur plus d'une année. Ils doivent traverser les montagnes de la Suisse à l'Italie. Et les termes employés par ces personnes du projet sont « il faut que ce soit crédible, plausible ». Nicolas note aussi que ces montagnes ont servi de décor maintes fois, y compris dans un épisode de Star Wars. Donc, ça veut dire qu'elle participe particulièrement à l'imaginaire du moment. Ce qui me fait penser, en fait, mais d'une façon peut-être inverse, à une œuvre récente d'Alain Bublex, « An American Landscape », qu'il a poursuivi entre 2018 et 2022. La démarche était inverse car l'artiste dans cette œuvre reprend à la palette graphique des scènes du premier Rambo, First Blood, en enlevant les figures humaines. Donc il ne reste plus que les paysages et qui deviennent des paysages typiques de la culture américaine. Bord de lac, pin géant, etc. Le livre de Nicolas Nova, Fragments d'une montagne, au chapitre suivant, le groupe initialement décrit, Nicolas Nova va suivre cette fois un couple de Britanniques qui se rend sur la mer de glace sur les traces de Mary Shelley, celle qui a écrit ce que nous considérons comme le premier texte de science-fiction, Frankenstein. Et en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que ce groupe va s'arrêter devant la mer de glace et va demander, enfin, mer de glace qui n'est plus du tout dans l'état dans lequel elle était au temps de Mary Shelley au XIXe siècle. Et le groupe s'arrête et devant ce glacier qui a beaucoup diminué, et il est demandé à tous de faire comme si. C'est-à-dire de ne voir que ce à quoi on veut croire. Donc on reste sur des représentations qui ne suivent pas en fait la réalité de la catastrophe climatique à venir. Pour aller dans le sens des représentations et de l'empilement des récits qu'on a face à un paysage, il y a un autre ouvrage que je lis en ce moment qui parle de ces problèmes de représentation et de récit, c'est celui de Raphaël Guidé, La ville d'après, Détroit, une enquête narrative. Raphaël Guidé a travaillé en profondeur sur non seulement sur les causes de la chute de la ville de Détroit, qui a été déclarée en faillite en 2013, mais aussi sur les différentes strates de récits qu'ils ont traversées et qui la traversent encore. Alors, je ne vais pas détailler tous ces récits, car ils sont très nombreux. Pour aller vite, on dira qu'ils sont tendus entre, d'une part, un récit apocalyptique, comme si une force biblique avait fondu sur la ville. Or, il s'agit bien de mécanismes du capitalisme qui ont conduit cette ville à la faillite. Ou bien des récits liés au mythe américain, soit de reconquête, soit de réussite, quoi qu'il advienne. Et alors la ville est vue comme un phénix sans cesse renaissant de ses cendres. Mais pour coller à ce qui nous réunit ce soir, j'ai retenu deux éléments importants. Tout d'abord que face à un désastre lent, on est à court de récits. Comme le dit l'autrice de cet ouvrage, la catastrophe manque d'éloquence. Et d'autre part, face à la reconquête de la ville de Détroit par la nature, du moins une certaine nature, car c'est une nature artificielle, dans la mesure où par exemple les pans y pullulent, et ce sont des pans qui ont été importés. Donc face à ce retour de la nature, d'une certaine nature, certains habitants veulent voir une occasion de créer un milieu, c'est-à-dire une conception du paysage où tout compte infiniment, renouant ainsi avec l'art de la description intégrale. Ainsi, donc, lorsqu'on regarde un lieu, un paysage, il est fait de son histoire, mais il est également produit par les récits qui l'accompagnent. Alors, moi-même, dans mon livre « L'exercice du cœur » que j'ai publié l'année dernière aux éditions « Lire des marges », comme Nicolas Nova, je me suis intéressée aux montagnes, mais plus particulièrement à leur exploitation par la Société des loisirs. Alors, je précise que c'est un livre de littérature, un roman. Au départ, j'étais intriguée par le fait que nos livres d'école que dans nos livres d'école s'inscrivait la société que nous allons habiter une fois adultes. J'ai grandi dans les années 70-80. C'était le début de la société des loisirs et des loisirs de masse. Et c'est ce qu'on retrouvait dans nos livres de classe. Par exemple, dans les livres de français Bordas 1978, on avait beaucoup de textes qui parlaient du sport et notamment du ski. C'est aussi le moment où on a commencé à envoyer les élèves de collège en classe de neige. Personnellement, j'ai eu l'immense bonheur d'en faire deux, car nous avions des classes à deux niveaux dans mon école expérimentale d'Evry, CM1, CM2. Donc, j'ai été dès l'enfance habitée par des récits de la société de consommation, et plus encore, j'ai été actrice de cette société. Dès le CM1, en pratiquant le ski dans les Alpes, notamment. Bien sûr, j'aime le ski, mais le ski n'est pas la montagne. La question que l'on doit se poser au bout d'un moment, c'est comment retrouver le chemin de ce qu'est un milieu. Est-ce qu'il s'agit de défaire des récits? Est-ce qu'il s'agit de trouver plus encore des imaginaires nouveaux? En ce qui me concerne, c'était également trouver la langue qui va avec pour les dire. La question de savoir si les souvenirs nous appartiennent en propre ou sont ceux de toute une génération se pose. Même pratique de consommation, de loisirs, affaire de territoire et de classe socio-culturelle, paraît-il. Aujourd'hui, nombreux sont les récits générationnels des années 70-80, volonté de se justifier, volonté de se présenter vraiment aux générations futures. Un brin de nostalgie sans doute, une incompréhension aussi. Comment en est-on arrivé là, sur le bout des lèvres? Défaut de conscience? Imposture des représentations? Génération Casimir, sport d'hiver ou patinoire? Génération Goldorak? Génération crise du pétrole, Giscard, blue jeans et paillettes? Génération Boom, roller, Saturday night, Jean-Patrick Manchette? Génération Miu Miu, Piccoli, Devers et compagnie? Génération Coco Girls, Claudette et Nana en jupette? Génération Bonbon, Bombec, Bombers, tout élec? Génération Scooby-Doo, corde à sauter, jeu d'élastique? Génération Cassette? Génération Dorothée, Mariti, Gilbert Carpentier? Génération Popek? Génération Guerre des étoiles, Princesse Leia, cinéma sans surround? Génération Haïti, Krubo, Perec? Génération Trampoline, Nadia Comaneci? Génération Madonna? Génération Grease, Tok Tok, AA? Génération Nintendo? Génération Oulipo? Génération Radio Libre? Soit un skieur qui vient de s'élancer sur la piste, plié sur ses skis. Il prend de la vitesse. Va-t-il savoir aussi prendre les virages?
De cette traque de Talk Talk, nous étions plongés dans la lecture d'un passage où tu évoquais ces différentes générations produites de toutes pièces, des générations générées. Dans ce passage, il y a la première phrase qui est assez essentielle et qui confère le vertige, parce qu'elle nous oblige à observer un vide existentiel. C'est le moment où tu dis la question de savoir si nos souvenirs nous appartiennent en propre ou sont ceux de toute une génération se pose. Alors, avec ça, on comprend que ça nous aide à comprendre que le capitalisme, c'est aussi une machine à produire des imaginaires. C'est surtout une machine à produire des imaginaires. Et c'est forcément des imaginaires autour desquels on a construit nos affects, profondément. Donc, ça provoque quelque chose qui est plutôt inconfortable, parce qu'on n'a pas vraiment envie de balancer le bébé avec l'eau du bain. Et pourtant, faut bien être capable de se mettre à distance, de sortir de soi, de pouvoir s'observer comme un produit de quelque chose. Et si c'est un sentiment qui est difficile à affronter, il nous met sur les chemins du déterminisme. de nos déterminismes. Et ça, c'est un ressort de compréhension et donc de transformation qui nous semble essentiel. Et surtout si on veut pouvoir réfléchir à plusieurs, collectivement, et sortir de la fable méritocratique, un des purs produits du capitalisme. Donc ici à l'école, on peut se poser cette question. Est-ce qu'on mérite notre condition? Est-ce qu'on mérite notre fermeture? Et à partir de là, on s'est arrêté aussi sur un autre extrait qui faisait écho à ce passage, pour prolonger un peu notre réflexion sur la fabrication des imaginaires. C'est celui où tu convoques l'objet boule à neige. Alors si tu veux bien lire ce petit extrait.
On spécule sur la boule à neige zéro, sur l'inventeur d'un tel objet et sur les circonstances de l'invention. Tous les collectionneurs et spécialistes s'accordent tout de même sur la boule à neige de l'exposition universelle de Paris de 1878, une boule en verre contenant un homme s'abritant sous un parapluie. Création de Pierre Boire, directeur de la Verrerie des Lilas et inventeur des globes panoramiques. Au départ, la boule à neige est un presse-papier. Mais très vite, dès l'exposition universelle suivante, la boule à neige produite abrite cette fois une tour Eiffel et devient un souvenir. Aujourd'hui, c'est la quasi-totalité de la production qui a cette fonction, d'abriter les souvenirs, de les enfermer. La boule à neige, c'est une cloche du temps. Et la neige qui tournoie dedans, c'est bien la main de l'homme qui vient la réveiller. Depuis quelque temps, on est passé à un stade supérieur. Ça et là, en Europe et ailleurs, fleurissent des skis dômes. Ainsi, à Tignes, dans les Alpes françaises, on imagine en construire un à côté des pistes pour pratiquer le ski d'intérieur, puisque désormais, on ne peut plus dévaler la poudreuse tous les jours de l'année. Il s'agit de rentrer dans une boule à neige grandeur nature, en somme. Enfin presque, puisque cette piste de ski en intérieur a été imaginée en ligne, large de 50 mètres pour quelques kilomètres de long. Bientôt, les sapins en plastique fleuriront grandeur nature au bord de cette piste factice. On pourra même y planter des palmiers. La descente au flambeau, si belle à regarder, sera désormais remisée au grenier de la mémoire. Puisqu'ainsi isolé en pleine montagne, le sport de glisse se pratiquera pourquoi pas à minuit. On n'est plus à cela près, question gabegie énergétique.
Merci. C'est vrai qu'on aimait bien ce petit objet boule à neige. C'était un passage assez drôle qui nous parle, qui nous dit beaucoup de choses symboliquement. C'est un objet ultra, ultra populaire, un objet totémique kitsch du capitalisme. C'est une figure qui te permet de convoquer facilement des idées sans pour autant avoir besoin c'est littéraire, sans avoir besoin d'articuler.
C'est très littéraire.
Et c'est des idées, ouais, qui nous semblent essentielles. Donc c'était lié à cette fabrique des imaginaires, en fait, qui cache derrière, la production, le tourisme de masse, la fabrication des paysages, jusqu'à leur extrême artificialisation. Et la bûche de Noël. Ça permet, de voir qu'en fait, le capitalisme, en fait, il repose aussi beaucoup sur la production de récits. Parce que pour faire passer la pilule et consentir à tout cela, il faut quand même une bonne grosse dose de storytelling. Donc, t'évoques brièvement le contexte de création, d'émergence de cet objet, l'exposition universelle de Paris de 1878. Donc d'abord présenté sous la forme d'un presse-papier, avec dedans des petites paillettes pour faire de la neige et la figurine d'un homme avec son parapluie qui brave cette tempête de neige. Et puis à l'exposition suivante de 89, là d'un coup on a mis la tour Eiffel à l'intérieur et on a mis la tour Eiffel sous cloche et il s'ouvre avec ça la possibilité un peu plus directe de produire un objet souvenir, quoi. Et ce qu'on trouvait assez beau dans l'évocation de cette figure, c'est le rapport d'échelle vertigineux que ça introduit, qui devient un support pour plusieurs niveaux de lecture. Il y a bien sûr l'objet souvenir anecdotique, le gadget touristique idiot, et puis ces infrastructures sportives grandeur nature, comme tu dis, ces skidômes. Et puis aussi, plus simplement, les stations de ski sous perfusion de fric ou de neige artificielle, qui sont parfois importées, comme on a pu le voir récemment, ou alors produites en pompant directement dans les nappes phréatiques sans autorisation. Donc on a sous les yeux la figure d'un enflement monstrueux. On parle du petit objet en fait, et puis à la fin on a tout le paysage qui est mis sous cloche. Cette petite babiole c'est une sorte de déchet de plus, mais après il y a la production du paysage à échelle 1. Avec les stations de ski, même si on peut parler de transformation du paysage, il y a aussi et surtout la nécessité de préserver quelque chose qui est plus là, de maintenir quelque chose. La mise en tension d'un paradoxe qui est bien connu, en cherchant à conserver quelque chose à tout prix, on accélère sa disparition, sa mort. En produisant le tourisme hivernal montagnard, ce sont les sommets enneigés qu'on a condamnés, et il y a le refus de voir que la neige ne tombe plus, et pour autant, l'or blanc, lui, doit continuer de tomber. Parce que si les imaginaires capitalistes fondent comme la neige avec le réchauffement climatique, on voit les choses de manière plus dépouillée, et ça c'est un sentiment plutôt vertigineux. Ces paysages transformés par les hommes qui n'existent plus, si ce n'est dans nos souvenirs, nos cartes postales ou nos boules à neige, c'est un sentiment assez particulier, et on voulait aussi soulever, on avait entendu parler récemment d'une sorte de nouveau mot qui a été forgé pour véhiculer ces affects, c'est la solastalgie. Apparemment, ça aurait été un terme forgé par Glenn Albrecht, un Australien, je crois, et c'est un peu quelque part le fruit de la rencontre entre l'éco-anxiété et puis cette nostalgie des paysages disparus. Nous, on va pas nécessairement être mis sous cloche. On n'aura pas notre petite boule à neige de l'Estade Valenciennes.
Un autre extrait qui avait vraiment résonné tout particulièrement avec nous à la lecture de l'exercice du skieur, c'était justement la comparaison faite entre le portrait que tu dresses du sculpteur sur bois et champion du ski Walter Steiner et l'état d'incertitude généré par notre modèle sociétal et socio-économique.
La question serait finalement de savoir comment, depuis un passé collectif, on se bricole un espoir, un avenir et des convictions politiques. Tout de suite, on interroge la réalité du passé commun. Sans doute est-ce un passé en commun, mais est-il commun par ou dans ses représentations ? La difficulté pour répondre à cette interrogation est d'autant plus farouche qu'elle se heurte à des générations qui ont toutes peu ou prou les mêmes artefacts et des souhaits ou des espoirs a priori semblables. Au début du film de Werner Herzog, La grande extase du sculpteur sur bois Steiner, on voit ce champion de saut à ski lors d'une compétition en 1972 éternellement sauter, puisque l'effet cinématographique d'un certain ralenti ajouté à une musique lancinante maintient le skieur en l'air comme s'il avait vaincu les lois de la pesanteur. Et, même si la chute très rude, dangereuse, qui aurait pu être mortelle, est également filmée, le cinéaste rejoue le vol une seconde fois, cherchant sans doute en lui-même cette extase ou la captation de celle-ci, faisant revivre au spectateur l'instant magique avant la fatalité de la chute. Cet instant T, s'affranchissant de la gravité, suscite le même envoûtement que celui éprouvé et renouvelé chaque fois qu'on secoue le globe neigeux. Fortuitement, à la 25e minute du film, après un saut somptueux, Steiner chute une nouvelle fois et l'on voit sa silhouette sombre et fragile dans l'image, couchée dans la neige, tandis que sur la droite, une ombre circulaire obture le plan, comme si l'homme était tapi au fond d'une scène minuscule. Le sauteur à ski Steiner n'a de cesse de chercher cette perfection du geste qui permet d'atteindre l'extase du vol, mais débarrassé de la peur qui accompagne la performance. performance pourtant inlassablement réclamée par le public, les médias, le milieu du sport. Pour exprimer sa quête, le sculpteur sur bois Steiner, qui semble retrouver les courbes des filets d'air ou de la piste de ski dans ses propres créations, relate une anecdote somme toute assez obscure. Il raconte à Herzog que lorsqu'il était petit, il avait recueilli un oiseau blessé. Celui-ci, une fois guéri, avait été rejeté par les siens, car ayant été vraisemblablement trop nourri, cela l'aurait empêché de voler correctement. Il avait dit et désiré voler. L'ascension précède toujours la chute. On peut s'abîmer dans cette durée ascensionnelle en fractionnant les images jusqu'à ce qu'elles dévoilent un mouvement comme épaissi par le temps, un moment de haut vol qu'on revivrait sans cesse, désirant nous afficher splendidement accomplis, tels qu'en nos rêves. Mais à bien y regarder, nous sommes seuls. Mais à bien y regarder, c'est un saut sans destination autre que la chute. C'est un vol qui cherche davantage une destinée qu'une destination. Comprendre que maintenant, il n'y aura plus ni l'un ni l'autre. Comprendre que la chute est consommée et que l'élévation passera désormais par autre chose que la grandeur ou la puissance. Comprendre que l'ascension est maintenant une affaire mentale et que le geste, si geste il y a, s'accordera sans doute à une échelle plus réduite.
Merci. Lorsque tu as évoqué Steiner pour la première fois, justement à propos de cet état d'incertitude, tu as décrit comment cette incertitude s'apparente à glisser doucement dans le noir et de n'avoir comme solution que le tâtonnement. C'était difficile pour nous de ne pas faire le parallèle avec cette période où clairement nous aussi on navigue à vue. Depuis un petit moment déjà, et comme tu le dis, plutôt en improvise grave. Mais on est aussi habité par cette nécessité en fait de dire aussi qu'on profite, qu'on aura fait le maximum avant qu'il ne soit trop tard. Du coup, je voulais aussi lire cette petite extrait où quand tu décris cet état, comme dans un brouillard givrant, on passe son temps à dire qu'on n'y voit rien, qu'on ne sait pas de quoi l'avenir sera fait. Qu'on nage dans un océan d'incertitude, l'océan, lui, sachant très bien où il va, vers une déperdition des espèces vivantes, la mort du corail et la montée des eaux. Qu'on ne sait plus très bien quoi penser, ça c'est vrai. Quoi faire, c'est vrai aussi. Bien qu'on s'agite en tous sens, à l'image d'une fourmilière attaquée par un lézard, et que la meilleure défense c'est l'attaque, ou bien l'immobilisme. Ça non plus, on ne le sait plus. Alors comme le sculpteur sur bois, Steiner, champion de saut à ski dans les années 70 et filmé par Werner Herzog, nous sommes suspendus dans le vide, avançons très lentement, profitons de chaque instant. Arrêtons-nous justement sur ce verbe « profiter ». N'est-il pas lui-même symptomatique ? On profite, c'est-à-dire qu'on accumule du profit, et que d'une société de loisirs, on y vite passé à une société de plaisir. Et que d'une société de plaisir, on en arrive à une société de mort. CQFD. On ne peut pas parler pour tout le monde, mais cet état suspendu, comme dans le vide, c'est peut-être ce qu'on a trouvé, en tout cas, qui se rapproche le plus de ce que nous ressentons. Ce qui était vraiment frappant, je trouve, dans cet extrait, c'est que l'incertitude liée à l'atterrissage n'est pas encore évoquée. Il est évoqué du coup dans l'extrait que tu nous as lu et je vais y revenir. Mais il est là, je trouve vraiment question de profiter tant que ça dure, même si c'est questionnable, même si c'est dérangeant parfois. Et c'est une sorte d'entre-deux qui n'en est pas un. Et c'est un peu l'année que nous vivons. Et ce qui semble être certain en tout cas, c'est que c'est un cheminement qui ne peut pas être prolongé. Et que c'est peut-être justement le caractère assez fugace de cette transition qui fait qu'au lieu de le prendre pour acquis, on ressente vraiment une sorte de nécessité de savourer chaque instant. On a parfois un peu de mal à dire comment on va au milieu de tout ça. Et après des années de lutte, ça nous arrive de nous avouer, et parfois on est assez gêné, avec une sorte de sensation qu'on doit se justifier, que maintenant que notre sort est scellé, on a juste envie de profiter un max. On sait aussi que ce que nous vivons ici et les liens qui se sont tissés, les projets esquissés, sont les fruits aussi de cette situation si particulière. Dans le chapitre 9, donc de l'extase à la chute que tu nous as lu, on poursuit du coup cette analogie du saut à ski en considérant la chute. Et tu précises justement qu'on peut nous abîmer aussi dans cette durée ascensionnelle. Merci. Et bah oui, après l'ascension arrive la chute, ou en tout cas arrive là où la direction vers laquelle on se dirige. Or, il semble quand même bien être question de l'ascente. C'est une sorte d'autre fin, quoi, qui se profile, je trouve, dans cet extrait, qui est pas celle d'un atterrissage, mais d'un modèle, d'un système capitaliste où nos écoles peinent aussi à justifier leur existence. Il y a cette nécessité de changer d'échelle et ce besoin de nouveaux imaginaires en ce temps de crise. Or, le capitalisme, a priori, ne produit pas de nouvelles formes. Il se contente plutôt de s'atteler et de se greffer au travail des marges. Et la débrouille, on connaît, je pense. Toutes et tous autour de cette table. La dynamique de l'art, on pourrait le dire, c'est de s'adapter, de proposer des solutions. Mais aujourd'hui, à l'école, on est obligé d'accepter un peu de sortir de ce modèle. Et on ne peut que se demander un peu si c'est tenable. Ça sous-entend aussi supprimer le confort de ces marges. En tout cas, pour les médias, en ce qui nous concerne, on continue à faire du mieux possible de là où nous nous trouvons, à l'intérieur donc, à en tirer profit même. Mais le dedans, pour nous, c'est bientôt fini. Et le dehors, ça reste un peu comme un saut dans le vide. L'extrait qu'on voulait lire avec toi... Ensuite, contemple justement ce dehors, ou peut-être qu'on s'accroche justement aux bribes du monde d'hier.
Dehors, ce que jusque-là on appelait la nature est tout embrouillé. Un arbre est tombé sur un mur. Va falloir élaguer, hein, couper tout ça, hein, ça fera des bûches pour l'hiver. Mais ranger n'est pas la solution. Ne pas supposer que le monde va se contenter d'un ménage de printemps, digne d'un lendemain de fête. Hein. On ne va pas se borner à vider les cendriers et à mettre les bouteilles sous le tapis. On va arrêter de boire et de fumer, recycler le verre, composter, caresser les vers de terre survivants et se faire tout petit. La fête est finie. Enfin, elle est finie depuis longtemps en réalité. Hein. Terminée. C'est pourquoi, un peu partout, on fait la fête à mort. Allez, une petite dernière pour la déroute. On installe des cabarets et des casinos à la ferme, rêves partis dans les champs, mais ça les gendarmes n'aiment pas du tout, boîtes de nuit sur les plages, Airbnb parce que je le vaux, c'est intense, c'est fiévreux, c'est sauvage, c'est la peur qui danse. Il y a sûrement un loup quelque part. Je regarde le paysage redevenu tranquille après la tempête, après les batailles, mais le silence m'assaille. C'est un silence nouveau, lisse comme le crâne d'un chauve. Nous voilà seuls, seuls au milieu d'une foule seule. Derrière le chalet, la route est à sens unique. Il ne passe presque personne.
Alors nécessairement, l'extrait que on vient d'entendre, il fait écho à la situation à laquelle on est confronté. Et aussi et surtout à l'après que tu suggères, l'après de ce qui va rester. Et nous, c'est un après qui se profile sans nous. C'est un après qu'on ne connaîtra que de l'extérieur, duquel on ne pourra être que les spectateurs passifs, si on peut dire. Un lieu peut-être délaissé de notre énergie, de notre dynamique collective qu'on essaie aussi de faire perdurer. Où, comme tu dis, il ne passe presque personne. Alors forcément, on se pose un peu la question, comment on se projette dans un après qui forcément nous échappe? Comment on prépare ce qu'on pourrait appeler l'obstacle à venir? Souvent, on se le dit, on se dit, on vit quelque chose d'extraordinaire. Et puis on décortique un peu ce mot extraordinaire. C'est extraordinaire. Ça sort de l'ordinaire. C'est presque de l'ordre de quelque chose qui n'est pas rationnel. Alors d'ailleurs, dans Tiroir central, tu écris que j'ai beaucoup aimé sa citation que le contraire du rationnel n'est pas l'irrationnel, mais je te cite. Quelque chose cheminant du côté des herbes folles, de l'entropie, de l'inachevé. On voit que ça a trait au champ des maillages accidentés, des entrelacs de lignes folles, voire de lignes molles, hein, pour paraphraser Ingold, de tout ce qui ne doit pas se terminer. Alors moi, ça me renvoie au chaos, en fait. À cette forme de structure chaotisée, encore je cite Ingold, une masse chaotique de fils entremêlés. Il y a chaos, mais il y a structure. Donc on aurait tendance à penser au terme de chaosmos, le mot valise qui est inventé par James Joyce dans Finnegan's Wake en 1939, et qui renvoie simultanément au désordre, qui est le chaos, et au monde ordonné, qui est le cosmos en grec. Donc il y a cette tension dans la dualité de l'ordre et du désordre. La crise elle-même porte en elle à la fois la désorganisation et la réorganisation. Hein, ça, c'est le sociologue Edgar Morin qui dit ça. Alors après, moi, j'aime bien aussi ce que dit Barthes dans la question de la crise, c'est qu'il y a désir et impuissance. Bah déjà, je ne sais pas si là tu veux interagir.
C'est un peu pour ça que j'avais choisi cette histoire de l'art de remarquer, de l'art de noter, c'est que je pense que justement face au chaos, un paysage de chaos ou à une sensation de chaos, je pense que la première chose à faire pour essayer d'habiter le monde en fait qui s'ouvre, c'est de voir, de le regarder en face. Il y a, par rapport à ce que disait Sébastien tout à l'heure, il y a un des fragments de montagne de Nicolas Nova qui m'est revenu, c'est le fait qu'à un moment donné, il regarde un pylône qui est rouillé, qui ne sert plus, qui est dans la montagne, et il se demande est-ce que c'est un déchet. Et en fait, il se dit non, c'est le nouveau paysage de la montagne. C'est-à-dire que la montagne, maintenant, va exister avec ce pylône rouillé qui va rester là. Parce que les pylônes, ils sont enfoncés à je sais pas combien de dizaines de mètres dans la roche. Et il dit, un déchet, c'est plutôt quelque chose qui se déplace. Mais ça, c'est le paysage. Voilà. Et je pense que par rapport à tout ce qu'on est en train de se dire, et ce que je voulais essayer d'imaginer, enfin, non pas comme nouveau récit, mais un récit qui se déplace, un récit qui essaye de comprendre ce qu'il a sous les yeux, en fait. Plutôt que un récit des yeux qui voient un récit antérieur. Voilà, c'était un peu ce que je voulais dire ce soir pour aussi faire le lien avec mon travail d'écrivain et aussi mon travail d'enseignante et notamment des interventions ici. Alors sur la question des récits, on peut aussi parler de ceux des politiques, les récits des politiques. Et pour moi, une école, c'est une histoire qui s'inscrit dans les histoires de la ville, dans l'histoire des individus qui participent, autant celles et ceux qui enseignent à l'école que celles et ceux qui y viennent. Et une école, c'est donc une histoire qui perdure pour toutes ces personnes dans le temps. Ce que font certains politiques en ce moment, ici mais aussi en Pays de la Loire et ailleurs, c'est qu'ils se racontent une histoire sans les individus, sans le maillage social, sans les associations et sans la culture. Et je pense que nos récits... évidemment d'expériences divergent, mais aussi nos récits pour le futur divergent également.
Oui, d'ailleurs, pour rebondir un peu sur cette question des récits, une expression aussi que j'ai beaucoup aimée dans ce que tu dis, c'est le silence nouveau. fait, après ça, qu'est-ce que, enfin, après, il y aura le silence. Alors, on pourrait dire que là, on est dans le chaos, on est dans le bruit, pardon, je reviens sur le chaos. On est dans le trop, peut-être, parce qu'en fait, on sait pas trop ce qu'on fait, parfois. C'est, voilà, l'opposition du, il y a un peu un dedans protégé, un dehors dangereux, parce qu'en fait, il y a un dehors dangereux. Et donc, le chaos qui se préfigure, il n'est peut-être pas que le chaos pour celui qui est externe, en fait. Pour nous, en fait, c'est pas le chaos. Enfin, en tout cas, j'ai pas l'impression qu'on sent le chaos. C'est souvent, par exemple, on a des collègues qui nous demandent « ça va, l'ambiance, elle est pas trop morose ?» Et en fait, on est gêné, on dit non. On est bien, on est plutôt heureux, on fait des choses, on s'amuse. Alors des fois, on peut dire qu'on déambule, on gesticule, mais en tout cas, on est plutôt heureux pour le moment. Donc alors, je veux pas dire qu'il y a une injonction à la peine ou à la tristesse qu'on nous demanderait de l'extérieur, mais en tout cas, on comprend pas nous-mêmes, en fait, et c'est un peu ce que tu dis quand tu dis c'est la peur qui danse. Moi, c'est ça, c'est la peur elle-même qui danse. Nous, on danse presque pas, en fait. Donc, dans tout ce cosmos, pourrait-on dire, on tente, nous, d'être les témoins, les passeurs d'un événement extraordinaire. Alors ici, là, ce soir, à discuter entre nous et créer des capsules hors du temps pour tenter de comprendre ce qui se passe, ou là, devant les collègues de toute la France qui nous écoutent, peut-être, j'espère, ce qui a conduit à notre situation, pour rebondir. Le chapitre duquel est extrait ce qu'on a écouté, il s'appelle « Il nous faut un manuel ». Voilà, un petit rebond, un petit glissement, en fait, de dire, nous, on, à notre petite mesure, on essaie de mettre en place ça, un manuel pour les autres qui vont peut-être fermer, je ne vais pas dire mourir, qui vont peut-être fermer, mais c'est une petite mort. Donc voilà, c'est cette question du manuel, de comment on fait pour rédiger quelque chose. Et tu conclis sur la question se promener dans un livre comme dans un jardin. Tu réponds oui, c'est l'idée, mais pour que cela puisse se faire, il faut que le jardin préexiste et soit le plus sauvage possible. Il y a toujours ce sauvage, les herbes folles, le chaos. Tu vas me dire, mais tu sembles peut nous dire que le sauvage, c'est le prérequis. Alors, à l'émergence.
Pour moi, c'est pas le chaos, forcément, c'est le non maîtrisé. C'est pas la même chose. Dans la mesure où il y a pas de pouvoir, enfin, ou de vision préexistante, c'est
oui.
C'est plus ça, quoi.
Mais c'est nécessaire à une forme d'émergence créatrice, où au début tu parlais la création en temps de crise.
Oui.
Ouais. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que on a besoin de cette forme chaotique, des herbes folles, en fait, pour créer. De la même manière que là, on est dans une forme expérimentale.
C'est un peu le lieu pour ça, quoi.
Oui.
C'est sanctuariser la possibilité d'avoir des étudiants, des étudiantes qui peuvent expérimenter, s'individuer à travers des projets sans avoir à penser les choses avec un cahier des charges pédagogiques très serré, très précis. Et c'est un peu ça qui nous fait peur, c'est qu'en fait, on sent que ça, c'est en train de s'échapper au profit plutôt de structures du type privé et dont le cahier des charges pédagogiques est un peu plus tenu parce que c'est fait plutôt pour irriguer des fiches de poste un peu plus précises. On va prépenser les choses, moins improviser. Le rapport à l'emploi sera un peu plus prolétarisé et c'est un peu ça qui fait peur, ouais.
Oui. Nous allons, je pense, conclure sur ces pensées pour ce soir, donc toutes ces pensées qui vont se poursuivre au cours des mois à venir. Avant de vous en dire plus, on voulait remercier Sophie Coiffier d'avoir répondu à cette invitation assez folle.
Merci à vous surtout.
Et on voulait aussi remercier Radio Du d'avoir aussi répondu présent avec cette proposition
en tout cas de dernière minute.
De dernière minute, ouais. J'ai essayé de voir comment j'allais le formuler, mais de dernière minute. donc à toute son équipe et à Lorraine Beau et Samson Staples qui sont ici avec nous ce soir. Merci aussi à Laurette Brem, à Aude de Lecel, à Jamelia Benalal d'avoir pensé notre espace. Merci aussi à Caroline Lefebvre et à Narwal Charbonnel. On voulait aussi témoigner notre reconnaissance pour le travail du chercheur Nicolas Nova, tel que Sophie l'a dit, qui nous a quittés brutalement fin décembre.
Et voilà, on va se quitter là-dessus en vous disant peut-être ce qu'on aura pour le prochain épisode, qui du coup est programmé le 25 février, donc ça sera aussi un mardi soir, certainement à 19h aussi. Pour ce rendez-vous, on accueillera Chloé Théré, Yalma Robette, Laurette Brem, deux anciennes étudiantes et une étudiante actuelle, et avec elles on pourra revenir sur l'histoire récente des luttes qui ont été menées à l'ESSAD à partir d'un point de vue étudiante, et quelles actions ont été menées, comment le climat social a été impacté par ce processus de fermeture, et comment cette situation est vécue, ressentie pour celles et ceux qui travaillent ou étudient aussi à l'extérieur. Merci.
Merci, bonne soirée à tous.
Merci.
Merci.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
Bonne soirée. Chanter toute la nuit.